bonjour à tous. Alors un genre nouveau justement peut-être amené à se développer, c'est un secrétaire général du Parti communiste qui cumule avec le poste de président de la République. La séquence s'est produite en Chine, elle a lieu aujourd'hui dans la République socialiste de Vietnam où c'est un partisan, dit-on, de la ligne dure, Nguyen Phu Trong, qui arrive aujourd'hui au pouvoir. Ligne dure mais aussi ouverture, et on en parle avec vous Benoît de Tréglaudet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRSEM au Centre Asie du Sud-Est et auteur notamment de Mer d'Asie du Sud-Est, coopération, intégration et sécurité avec Nathalie Faux aux éditions du CNRS cette année. Alors cette élection, d'abord, elle vient combler un vide, comme on dit certains analystes, à l'intérieur du Politburo après la mort de l'ancien président Chan Dae-kwang. Elle est aussi la confirmation du resserrement du pouvoir autour des conservateurs depuis 2016, au point que certains y lisent une évolution parallèle à la Chine, puisqu'effectivement, en cumulant ses fonctions de secrétaire général et de président de la République, eh bien Nguyen Phu Trong, un vrai apparatchik, est aujourd'hui l'équivalent en Vietnam de Xi Jinping en Chine, son nom dans la Constitution en moins. Resserrement intérieur donc, alors que sur le plan extérieur, et on va parler de ça, le Vietnam fait preuve d'une extraordinaire diversification diplomatique, avec notamment un rapprochement avec les États-Unis depuis 2011. En fait, une ouverture savamment pesée pour ne pas dépendre d'un seul parrain, c'est ce qu'on appelle, ce que vous appelez dans un article, le hedging géostratégique, on pourrait dire, en Asie du Sud-Est. Vous allez nous expliquer ça. Pour preuve, aujourd'hui commencent aussi les premières manœuvres en mer de Chine méridionale entre l'ASEAN, dont fait partie le Vietnam, et la Chine, manœuvre inédite. Alors évidemment, il y a un enjeu économique pour la deuxième croissance mondiale, tactique aussi dans le contexte de revendications en mer de Chine, mais en tout cas un résultat, le Vietnam n'a jamais été aussi proche de ses anciens ennemis, États-Unis, Chine. Édouard Philippe s'y rendra en octobre, le président français l'année prochaine. Alors jusqu'où les liens peuvent-ils être serrés, et le Vietnam est-il une bonne plateforme géopolitique? Si on parle de la base, là, ce resserrement à la Xi Jinping, avec l'arrivée de Nguyen Phu Trong, est-ce que le parallèle est si évident, vous semble-t-il, Benoît de Tréglaudet?
Bon, la première chose, c'est que ce resserrement, il était attendu, il était dans les starting blocks depuis quasiment une petite décennie. Le parti au Vietnam avait expérimenté cette fusion des deux postes centraux, en fait, du ce qu'on appelle le triumvirat de la gouvernance vietnamienne, secrétaire général et président. Ils avaient testé ça dans quelques provinces et ils ont juste vu sur le terrain comment ça se passait. Ce qui est nouveau, effectivement, c'est que ça arrive maintenant. Le prédécesseur, en fait, Nguyen Thanh Dung, le prédécesseur du Premier ministre vietnamien actuel, avait voulu organiser cette fusion de son temps, c'est-à-dire il y a 3 ans. Il n'y avait pas réussi à l'époque parce qu'on voyait une concentration de pouvoir trop forte sur une personnalité qui était très, en fait, clivante. Aujourd'hui, Nguyen Phu Trong, depuis le dernier congrès du Parti communiste vietnamien en janvier 2016, lui a repris en main le pays et il a qu'une seule obsession, c'est de faire en sorte que le Parti communiste maintienne en fait son pouvoir au Vietnam. Et d'une certaine façon, cette fusion, la première explication, c'est que c'est un projet et une façon de protéger l'avenir du parti dans le pays.
Et c'est une reprise en main qui se mesure, en tout cas, dit-on dans la presse ici, surtout à l'évolution des lois sur la cybersécurité, au traitement de la dissidence Internet, principalement.
Alors la gouvernance vietnamienne, elle se caractérise par une chose essentielle, c'est qu'elle est fortement marquée par un factionnalisme profond qui se renforce avec l'enrichissement et le développement économique du pays et l'ouverture du pays. Donc ces divisions au sein de l'appareil d'État, on peut rentrer dans le détail, mais ces divisions au sein de l'appareil d'État, elles inquiètent également le voisin chinois, pour qui la seule obsession n'est pas de s'intéresser réellement à la vie politique vietnamienne, mais d'avoir un parti fort, un parti communiste fort à sa frontière méridionale et un pays plus ou moins stable.
Donc c'était d'abord répondre à des divisions au sommet.
Et donc c'est d'abord répondre à des divisions au sommet, effectivement.
Et le traitement de la dissidence, quand même, qui devient aussi un enjeu international, c'est pas inintéressant, puisque on le voit, le Vietnam est capable d'en jouer d'une manière assez utilitaire, avec tout récemment la libération d'une dissidente bien connue qu'on appelle Mère Champignon, parce que c'était une dissidente, disons, sur les sujets écologiques. Libération intervenue juste après la visite de James Mattis, le secrétaire d'État américain à la Défense.
Alors ça, il faut y voir d'abord un geste politique. C'est très clairement en fait une main tendue à Washington. Il est clair que depuis quelques mois, la balance penche un petit peu du côté chinois. Les Chinois sont très actifs et très demandeurs de rapprochement et de resserrement des liens avec Hanoï. La visite du secrétaire d'État américain au Vietnam, il fallait donner quelque chose dans la balance et clairement ça a joué. Mère Champignon a été condamnée à 10 ans de prison. Elle a été relâchée avec de nombreuses années d'avance. C'était un signal qui est donné aux États-Unis. Écoutez, on n'est pas en train de basculer du côté chinois. On a également une politique de, effectivement, que j'ai appelé hedging, mais qui s'appelle, qui a ce nom de d'équilibre, qui c'est un peu le principe premier de la politique étrangère vietnamienne.
Parce que c'est une notion boursière, hedging.
C'est une notion boursière, mais c'est une notion de le Vietnam, comme de nombreux pays asiatiques, ont toujours construit leur politique étrangère sur une recherche de l'équilibre entre les grands. Actuellement, les grands chinois et américains, ce que vous appelez les anciens ennemis du Vietnam, sont assez demandeurs par rapport au gouvernement vietnamien, et les Vietnamiens ont voulu donner une caution aux Américains pour leur dire écoutez, on vous écoute, on vous entend. On va aller aussi vers davantage de pluralisme au Vietnam, mais honnêtement, c'est un geste politique assez cosmétique.
Et justement, avant qu'on parle du positionnement quand même du Vietnam, j'en parlais de cette libération. Si c'est pas une intervention directe très symbolique du nouveau président Nguyen Phu Chung, c'est quand même quelqu'un qui a une dimension internationale peut-être un peu insoupçonnée. Ce président, on peut en dire un mot, premier chef de parti à visiter la Maison Blanche de parti communiste en 2015, premier dirigeant asiatique à visiter Emmanuel Macron en avril 2017, et très courtisé aussi par la Chine récemment.
Oui, mais bon, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien joue son rôle. Hein, il a toujours été aux avant-postes. N'oublions pas que dans la hiérarchie en fait du pouvoir au Vietnam, c'est lui qui occupe le poste central. Donc, il a également une fonction diplomatique. Il est secrétaire général du parti depuis 2011. Il fait un second mandat depuis le dernier congrès du parti, et il terminera probablement son second mandat en 2021. Donc, il s'est imposé au centre de l'échiquier avec à ses côtés un premier ministre qui est plutôt faible, effacé, et un ancien président de la République qui vient de décéder, qui était son ennemi notoire, son enjeu c'était de s'imposer comme le seul dirigeant de l'équipe vietnamienne actuelle.
Et relativement à donc cette redéfinition, ce rebalancement plutôt du hedging en Asie du Sud-Est, il y a eu un événement marquant ces dernières années, c'était fin 2016 quand le président philippin Duterte s'est subitement rapproché de la Chine, avec qui il était en brouille sévère au sujet de la mer de Chine du Sud. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ce nouveau président, encore une fois, le Vietnam serait plus enclin à se rapprocher de la Chine, mener cette politique qu'on dit de transparence en mer de Chine du Sud, comme on le voit aujourd'hui avec ses manœuvres ASEAN?
Bon, la première chose, c'est qu'on n'est plus du tout en période de guerre froide. Il n'y a plus une politique d'équilibre qui fonctionne plus ou moins comme dans les années 50-60. Aujourd'hui, encore une fois, le monde est davantage globalisé. Les Vietnamiens n'ont pas véritablement de volonté de diversifier à l'infini leur partenariat. Il y a une Chine qui est un voisin historique et aujourd'hui un partenaire économique et politique majeur. Il faut juste permettre à ce gouvernement de temps à autre d'équilibrer avec une politique asiatique plus dynamique, avec un ancrage régional qui est vraiment la nouveauté en fait du Vietnam. Hein. Depuis 15 ans, le Vietnam est devenu une puissance régionale qui est très active, alors que ce n'était pas le cas avant l'entrée du Vietnam dans l'ASEAN en 1995. Le vis-à-vis du Vietnam était plus européen, ou était plus, on va dire, occidental à travers le bloc socialiste. Là, depuis 20 ans, le Vietnam s'est réancré en Asie. Et il poursuit une politique de diversification extrêmement pragmatique pour effectivement répondre à l'omniprésence de son voisin chinois. Mais le Vietnam, comme les autres pays d'Asie du Sud-Est, sont concernés. Là, vous mentionnez Duterte, c'est clair que certains commentateurs ont évoqué le fait que depuis le changement et la bascule philippine vis-à-vis de la Chine, le Vietnam allait devenir un porte-flambeau de cet équilibre, de ce hedging en Asie du Sud-Est. Là, je crois que nous sommes trompés, ce n'est pas le cas.
Et en tout cas, double réancrage passages aussi bien maritimes que terrestres, effectivement, puisqu'il y a même des coopérations transfrontalières qui ont été proposées coopérations de gardes frontières qui ont été proposées par le Vietnam récemment à l'ASEAN. Dernière chose, cette visite d'Édouard Philippe en France, bon, il y a des liens assez ténus, je crois que c'est 1% du PIB, enfin des échanges français qui sont faits avec le Vietnam, mais il y a de grands espoirs le 2-4 novembre, qu'est-ce qu'on peut en attendre?
Non, c'est une visite qui a clairement un agenda économique au programme. Il est clair que les parts de marché françaises au Vietnam, étonnamment, régressent depuis de nombreuses années. Je pense que la France est au troisième partenaire européen du Vietnam, avec moins de 1%, malheureusement, 0,68%, ouais, si j'en crois mes derniers chiffres. Et effectivement, il faut rebooster cette relation, il faut rebooster un partenariat qui n'est pas uniquement un partenariat diplomatique, mais qui doit un jour, espérons-le, devenir un partenaire économique fort.
Bon, bah, à suivre cette phase, en tout cas 45 ans des relations diplomatiques, ce sera le 2 et 4 novembre au Vietnam. Merci beaucoup, Benoît Tréglodet, pour aujourd'hui. Merci.